Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
On peut faire moins de bébés avec beaucoup plus d'amour.
Cette philosophie du plaisir qu'on trouve partout, à tout moment.
Des gros plans sur les gros seins, les grosses fesses de la nana et sur son plaisir à elle qui est exclusivement donné par un homme.
Dans les périodes addicto porno, j'ai plus de libido. Je rencontre une nana, je bande plus, je sais plus réagir normalement.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. Ça fait plus d'un an qu'on se retrouve pour briser des tabous, pour écouter des personnalités engagées et des passantes et des passants sur la terrasse de Ground Control, pour trouver aussi les mots et les moyens qui nous permettent de trouver notre plaisir trop longtemps opprimé. Et puis ça fait aussi plusieurs mois qu'on écoute d'autres podcasts sur la sexualité. Des podcasts qui abordent d'autres sujets, des podcasts qui permettent la confidence et la bienveillance sur ce sujet, et des podcasts qui parlent des hommes. Parce qu'on va pas se mentir, avec Carole, on a un mal fou à trouver des hommes qui parlent sexualité et qui s'engagent et qui s'expriment sur ce sujet. On a découvert On The Verge et là on s'est dit « Waouh, Carole !»
Oui, tout à fait. Parce que ce que je disais toujours à Laura, c'est que j'avais beaucoup d'hommes dans mon cabinet qui venaient me parler de leur sexualité. Je me posais toujours la question pourquoi ils venaient vers moi. Mes collègues, c'était plutôt bien réparti. Et puis quand j'ai entendu ce que tu faisais, je me suis dit, waouh, je suis pas la seule en fait.
Donc, avec nous, et vous avez déjà entendu quelques rires, on a Anne-Laure Parmentier, la créatrice du podcast On The Verge. Bienvenue.
Merci.
Est-ce que tu peux nous dire, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et qui devraient tout de suite te connaître, ton podcast? Qu'est-ce que ça raconte?
Alors déjà, merci de me recevoir. C'est toujours... ça fait quelque chose de parler d'un side project. On en parlait juste un petit peu avant d'ouvrir les micros. En fait, ce podcast, c'est une façon pour moi d'exprimer aussi le féminisme à travers ce que moi j'appelle la parité éthique. C'est-à-dire que j'ai toujours, comme j'imagine vous aussi, suivi la libération de la parole sur la sexualité féminine. Et aujourd'hui, tous les médias digitaux et autres mettent ça en avant. Et c'est super, et cette libération-là est nécessaire et est vraiment importante pour nous les femmes. Mais dans ce combat qui est justement le féminisme, beaucoup de femmes descendent dans la rue et j'ai dit le mot combat parce que justement, moi là-dedans, je me retrouve moins, en tout cas. Je le soutiens évidemment, mais je fais partie de ces femmes qui vont être, disons-le, plus pro-débat. Et c'était important aussi pour moi d'ouvrir la parole à la sexualité masculine parce qu'on parle des femmes, mais on oublie beaucoup les hommes, j'ai l'impression. Ou en tout cas, on les charge beaucoup sur plein de choses. Et donc, ça, c'était mes idées qui, en parallèle, se sont confrontées à mon quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été la bonne pote, la copine, l'amie et auprès des hommes. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours eu des potes, des copains, des amis, autant que des filles. Et souvent, voilà, on parle, on rigole et puis voilà, ça dévie souvent sur la sexualité et il va y avoir les questions un peu intimes. Et parfois, voilà, les mecs me posaient des questions et j'étais là, mais... Dude, je peux pas t'aider là, en fait. Je ne suis pas faite comme toi. Et surtout, t'as pas un pote avec qui en parler parce que là, vraiment, j'ai mes limites. Je peux te donner mon avis de femme hétéro, mais après, ça dépasse un peu mes compétences. Et plusieurs fois, ils me disent que entre eux, c'est difficile d'en parler ou que c'est pas vraiment un sujet ou que ils vont se confronter à une forme de virilité un peu perverse ou de masculinité toxique. Ça, c'était un peu le mot en ce moment. Mais de fait, il y a pas forcément des réponses. Et ça, plus ça, plus ça, plus mon envie, voilà, on en parlait tout à l'heure, je suis entrepreneuse depuis très longtemps et j'aime bien les nouveaux challenges, j'adore ce format qu'est le podcast depuis bien longtemps, je le consomme depuis un petit peu avant que ce soit la grande tendance en France. Donc voilà, donc j'ai un peu mis bout à bout tout ça et j'ai créé On The Verge, qui est aussi un jeu de mots qui veut dire un peu sur les noms anglophones de l'autre côté. Et je fais parler les hommes sans tabou, sans jugement, pendant une heure, voire plus. Et en fait, le podcast est divisé en trois parties. Le avant, qui globalement va du premier souvenir érotique, sexuel, jusqu'aux premiers émois, généralement la première fois. Puis la période pendant, qui relate un peu la sexualité de l'homme en ce moment, enfin en tout cas, quelle est sa sexualité, et une partie après, où là, on va un petit peu se projeter dans une future sexualité, ou en tout cas, ce qu'il se souhaite à venir. Donc voilà, donc c'est une discussion qui, au montage est plus proche de témoignages livrés. Je me coupe beaucoup au montage final parce que les gens viennent pas m'entendre moi. Mais en tout cas, je suis très très présente pendant l'enregistrement. Et de là sont livrés des témoignages incroyables avec beaucoup de sincérité, d'authenticité, d'émotion. Évidemment, on parle de sexualité, mais on parle aussi du corps, on parle de l'âme, on parle du cerveau, on parle de philosophie parfois, enfin c'est des discussions qui sont très intenses et surtout ce qui fait du bien c'est que ça déverrouille des choses chez les auditeurs et auditrices. J'ai beaucoup d'échanges en DM, en mail, en commentaire sur justement ah ben voilà, lui aussi vit ça, ou lui aussi ça s'est passé comme ça, ou enfin voilà, il y a beaucoup de résonance chez les auditeurs et auditrices, et c'est ça qui est formidable, c'est le pont que ça crée, parce que comme vous le disiez, il y a très peu d'espace de liberté pour les hommes, pour qu'ils s'expriment sans phare, sans peur du jugement ou sans espèce de cahier des charges de l'homme parfait en 2020. Et ça fait du bien, ouais.
Et puis surtout que les hommes, quand ils se parlent, c'est toujours timide, peur de la performance, est-ce qu'on parle de la taille du sexe dans les vestiaires. On est toujours sur la normalité. Est-ce que je suis normale? Toutes les questions qu'on pose, c'est est-ce que je suis normale? Et en écoutant ce que les hommes viennent te livrer, ils peuvent se rendre compte où est la normalité, il n'y en a pas. Et chacun a son histoire, chacun vit des choses différentes avec sa sexualité. Et comment elle s'est construite?
Mais c'est ça qui est formidable, c'est comment elle s'est construite. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est justement essayer d'avoir une grande diversité des profils. Et typiquement, j'ai un homme, je crois dans la saison 1, ça va être l'épisode 2 ou 3 de mémoire, qui, lui, se masturbe 6 fois par jour. Et c'est OK, c'est normal, et ça a toujours été comme ça. Et pour lui, c'est sa normalité. Et d'autres qui vont dire, notamment un, qui se masturbe très peu, voire pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est un monsieur de 5 ans environ, et qui expliquait que lui ne s'est jamais vraiment masturbé, c'est pas quelque chose qui l'a intéressé, et lui c'est sa normalité, et il s'est jamais dit qu'il était normal ou il ne l'était pas. Et c'est ça qui est bien, c'est que les jeunes gens ou moins jeunes, quel que soit le moment où on écoute l'épisode, on se rend compte que finalement, si on en écoute 1, 2, 3, 4, 5, bah voilà, il y a autant de construction de sexualité que de façon de la vivre, et que c'est OK en fait.
Bah, toujours pareil, quand on écoute tes podcasts et quand je vois comment se fait une consultation en sexo, on commence par raconter l'histoire. C'est quoi votre histoire sexuelle, quoi. Donc au début, ça paraît un peu étrange, mais...
Un peu flippant, peut-être, au début.
Clairement, quand tu commences à leur poser... Votre premier rapport, c'était quand? Après, alors, on va poser nom et nom, votre nom, votre âge, votre première masturbation. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se dévoiler, à pouvoir parler de qui ils sont, à travers aussi leur sexualité, et de se dire, bah, tout compte fait, elle va me comprendre, quoi, parce qu'elle m'écoute, elle est bienveillante, c'est ce que tu transpires dans tes podcasts. Merci. Cette écoute active et cette bienveillance... où il se livre totalement, quoi.
C'est ce que je disais tout à l'heure à Laura, hein, c'est que en fait, beaucoup de gens sont très prolixes de commentaires sympas, qui me remercient, etc. pour ça, mais en fait, les gens se rendent pas compte de moi aussi ce que ça m'apporte, c'est-à-dire que effectivement, pendant ce moment suspendu que va durer l'enregistrement, il y a un échange d'humain à humain. C'est pas un homme et une femme, c'est pas une podcasteuse, si on doit le mettre dans une catégorie à ce moment-là, et un invité. C'est vraiment un humain. Alors on m'a posé la question plusieurs fois, donc comme ça, moi j'y réponds une bonne fois pour toutes. Il y a pas de rapport de séduction, à aucun moment. C'est-à-dire que je pense que les hommes qui passent la porte pour enregistrer sont au fait qu'ils vont se foutre à poil émotionnellement. Donc en fait, on casse tout de suite le jeu, qui pourrait avoir. Même si vraiment ça me paraît un peu décorrélé du process, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup voilà, c'est d'un humain à humain, et il va se raconter, et il va se passer pas mal de choses. Et ce qui est formidable, c'est moi j'attends jamais rien en fait en termes de rendu. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'hommes qui proposent leur témoignage, qui vont me dire « Ah, mais j'ai pas grand-chose à raconter, mais j'ai envie de le raconter, mais je sais pas si je dois le raconter. » Et en fait, il y a toujours à dire quelque chose. Il y a l'ordinaire dans l'extraordinaire et de l'extraordinaire.
Bien sûr.
Voilà, l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est ça qui est formidable. C'est que chacun a quelque chose à raconter, que ce soit les premiers souvenirs d'un amour de jeunesse qui rentre dans l'amphi de la fac et qui va créer une émotion incroyable, jusqu'à un gangbang de 12 personnes. Ouais. Enfin, voilà, l'expérience n'est pas tout à fait la même, mais finalement elle procure quelque chose de très humain, et c'est ça qui est formidable. Et c'est se laisser guider par l'émotion, par ce qui est raconté. Puis après, il y a des moments plus difficiles que d'autres, d'autres qui sont très joyeux, très intenses, mais c'est vraiment un moment suspendu. Donc cette bienveillance, elle est installée aussi parce que mon invité arrive vraiment émotionnellement à poil. Donc je ne peux pas faire autrement que d'accueillir ces émotions-là avec toute la tendresse et la bienveillance du monde.
Et ben justement, quand on s'est demandé avec Carole qu'est-ce qu'on allait poser comme question aux grandes contrôleurs, grandes contrôleuses, on s'est dit, est-ce qu'on va aller voir que des hommes pour leur demander, eux, leur rapport à la parole? On s'est dit, est-ce qu'on va parler du tabou, justement, de la sexualité auprès des hommes? Et en fait, on est venu à quelque chose d'assez simple, simple mais central et essentiel, qui caractérise son travail. On est juste allé demander aux personnes, comment est-ce qu'on parle de sexualité? Et donc, on va aller écouter ça.
Perso, moi, je trouve pas ça forcément facile de parler de sexualité. Ça concerne plutôt les gens en eux-mêmes. Et que, après, quand t'es proche de la personne, je trouve qu'il n'y a pas trop de soucis pour en parler, mais avec des inconnus. Après, c'est toujours le tabou aussi de société. Hein.
Malheureusement, c'est pas si facile. Malheureusement, ouais. Je m'en rends compte, hein, moi-même, qui me sens quand même femme libre, libérée, etc. Je vais facilement parler, et encore, avec ma sœur, avec mes copines, et encore. Je sens bien qu'il y a encore des petits freins à des endroits. Et j'aimerais me sentir plus libre avec ça. Ouais.
Par rapport à la sexualité qui est relativement ouverte, de par mon orientation, donc je suis homosexuel, donc par conséquent dans ma communauté on est plutôt ouvert à cette idée. Et si j'en parle, ce sont avec des amis proches. Il m'arrive d'en parler avec la famille.
Je pense que ça dépend vraiment des interlocuteurs, interlocutrices. Il y a avec des gens avec qui je serais tout à fait à l'aise, mais aussi parce que ces personnes sont à l'aise, donc je pense que ça met en confiance. Et d'autres qui l'évoquent jamais, et moi je vais pas spontanément forcément faire la démarche d'en parler.
Moi c'est assez libre pareil. La famille pas trop, les amis à peu près tout le monde, que ce soit proche ou pas proche, j'en parle à tout le monde. C'est plus. C'est souvent sujet à des blagues, parce qu'il y a plein de trucs marrants qui se passent pendant le sexe, et je trouve que c'est marrant d'en parler à tout le monde, du coup c'est un bon moyen de créer des liens avec des gens qu'on connaît pas forcément, de parler ça dès le début.
Alors toi qui as réussi à trouver la confiance de 33 hommes, je crois, ouais, j'ai bien compté, aujourd'hui, comment est-ce qu'on parle de sexualité?
Ah là là, vaste sujet. C'est un peu comme Carole, quand j'imagine ils viennent dans ton cabinet, bon, ils savent pourquoi ils sont là. Là, c'est un peu la
à
même
peu
chose.
Près.
À peu près. En tout cas, voilà, il y a une idée. Ben là, c'est la même chose dans le sens où, loin de moi de comparer la démarche, mais ils savent qu'ils vont parler de sexualité. Donc déjà, c'est des gens qui sont dans une action de vouloir parler de leur sexualité. Mmh. Après, la nuance, c'est comment bien leur faire parler de sexualité. Déjà, le fait de rythmer le podcast avec ces trois temps me permet d'avoir quand même, là on est un peu plus technique dans l'interview, mais une trame qui me permet quand même à chaque fois de remettre dans le contexte temporel, du moins. Et puis, c'est beaucoup de questions. Je te disais tout à l'heure, mes enregistrements sont généralement autour de 3 heures. Le plus long que j'ai fait, c'est énorme, 5 heures. Qui était très très long.
C'est Erwan.
Ouais, et très très éprouvant. Très éprouvant, mais qu'est-ce qu'il a été formidable à faire. C'est beaucoup de questions. C'est surtout quelque chose qu'on oublie un peu parfois. C'est aussi écouter les silences. Je pense qu'ils sont indispensables dans le travail d'interview. Après, évidemment, dans le montage, je les short ou je les enlève, hein, carrément. Mais en tout cas, dans ma discussion, ils sont là. Donc j'ai pas, comme on en parlait, j'ai pas de cahier des charges, j'ai pas un temps, la chance de pas louer de studio à l'heure. Donc du coup, du moment où l'invité vient là devant moi,
tu prends le temps qu'il faut.
Ah ouais, je prends le temps qu'il faut et j'essaie, voilà. Et si et je le sens, après on le sent assez naturellement, mais si on doit faire 10 minutes de small talk ou une demi-heure, on le fera. Si s'il faut rentrer tout de suite parce qu'il y a une espèce d'urgence de vouloir parler, ben on va le faire tout de suite. Enfin voilà, moi je m'adapte absolument et je me fonds et je m'oublie totalement à la volonté de sa libération de parole et à ce moment-là. Donc du coup, ouais, c'est ce que disait Carole, c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est l'écoute active. C'est-à-dire que tu écoutes, mais y a... moi je suis crevée après. Quand je rentre après, je suis lessivée parce que j'ai plus de cerveau, parce que c'est tellement intense, bon, évidemment dans l'émotion, dans la concentration, mais aussi dans la réception de ce qui s'est passé, quoi. Ouais, c'est beaucoup d'énergie donnée et reçue, mais ça reste assez exceptionnel. Ouais.
Et toi, Carole, comment est-ce que tu penses, ou quelle est ton opinion là-dessus? Comment est-ce qu'on parle sexualité aujourd'hui?
Bon, on en parle encore trop souvent sous la forme des blagues,
ouais.
Des petites dévalorisations, mine de rien, mais qui ont un impact important sur l'estime de soi.
Bien sûr.
Donc ça fait que bah, du coup, on n'ose plus en parler parce qu'on se sent jugé. À chaque fois, quelqu'un arrive et me dit « je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quoi vous dire bah, ». Allons-y, quoi, on est là pour parler et, puis moi, je vais traduire ou je vais vous dire ce que vous voulez me dire. Et que du coup, pourquoi autant de monde aujourd'hui n'ont pas cette sexualité épanouie? Parce que ce carcan a été mis de la sexualité, c'est tabou. Mais c'est le plaisir qui est tabou, c'est pas la sexualité. Parce que la sexualité, ça va en parler, mais pour se vanner. Mm-mm. Mais pas dans leur être.
Mais complètement.
Et toi, justement, Anne-Laure, avec tous les entretiens que tu as menés avec ces hommes, qu'est-ce que tu retiens? Alors, c'est une question très vaste, mais qu'est-ce qui t'a marqué, en tout cas, dans le rapport à la sexualité chez les hommes?
Écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, comme le dit Carole, il y a beaucoup d'hommes qui sont perdus parce qu'ils se raccrochent à des normes et ils ne se retrouvent pas dans ces normes. Donc, du coup, ils se sentent par définition hors norme, et c'est là où en fait ça court-circuite un peu le rapport au plaisir à l'autre, quel que soit homme ou femme, parce qu'il y a des normes dans l'hétérosexualité, dans l'homosexualité. On commence, j'ai l'impression, à ouvrir un peu à la bisexualité, mais ça reste un peu l'entre-deux de ces deux sexualités. Donc pour
c'est
beaucoup
un
de
peu caché encore.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, pour beaucoup de bisexuels, ils sont en train de choisir pour leur chemin, mais ils vont devoir faire un choix à terme, alors que pas forcément. Donc du coup, je retiens qu'effectivement, il y en a beaucoup qui sont paumés, et là, vraiment, pas d'âge, quoi. Ça peut être j'ai rencontré des hommes de 25 ans très bien dans leur sexualité, dans leur plaisir, dans leur volonté, et des hommes de 60 ans qui sont complètement largués, et inversement. Donc, je pense que déjà il y a ça, et puis il y a ce que moi j'appelle cette charge. Alors on parle beaucoup de la charge mentale féminine, hein, qui est une réalité et que je ne minimise absolument pas. Mais il y a cette charge aussi, cette pression sexuelle sur les hommes. Ils doivent faire jouir leur compagne ou compagnon. C'est un peu différent dans les cas de couple homosexuel, mais ils doivent investir le lit. C'est eux qui doivent être force de proposition. Les hommes ont une libido, les femmes doivent suivre cette libido. Et en fait, pareil, il y a quelque chose pour certains qui est un peu flou, parce que quand il y a plus de désir chez une compagne, on va prendre un couple hétéro là, il y a plus de désir chez la partenaire. Ils sont un peu paumés par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais de cette libido? Moi, j'ai pas vraiment envie. Alors, est-ce que je suis pas normale? Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de carcans, comme disait Carole. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à se défaire de ça. Et j'ai remarqué qu'effectivement, ils se raccrochent par des bribes, par des moments à ces carcans pour se rassurer, mais ils se rendent compte qu'ils sont pas tellement en phase avec.
Et que ça fonctionne pas.
Et quand, effectivement, j'ai des participants qui me mettent « j'ai besoin de te ou de vous parler », généralement, c'est là où je refuse les témoignages, où je leur dis qu'il faut qu'ils voient un professionnel de la santé sexuelle, parce que moi, je pourrais pas avoir les réponses à leurs questions. Et que là, ils sont, je pense, dans un process où effectivement, ils ont envie de parler, mais il faut qu'ils trouvent un interlocuteur diplômé, certifié, qui connaît bien son travail. Mais oui, je sens beaucoup d'hommes qui ont besoin de parler de ça, parce qu'ils se retrouvent plus, ils se retrouvent pas, ils sont un peu paumés.
Parce que ce qu'on a complètement oublié, c'est que les hommes avaient besoin de tendresse.
Ouais.
qu'ils avaient besoin d'être caressés, qu'ils avaient besoin de ce cocon, avant tout même de sexualité, de pénétration. Et c'est ce qui leur manque très, quand on leur pose des questions, enfin, quand je leur pose des questions, ils disent « mais j'ai plus de tendresse ». Donc, ils sont perdus, ils sont malheureux.
Mais tu vois, ce que tu dis, Carole, est très juste. Et sans avoir eu la réflexion dans ce sens-là, mais je l'ai vu dans... Donc, du coup, ça a été la résultante d'une action que j'ai menée sur Instagram, où effectivement, moi, j'avais beaucoup d'hommes qui me disaient... Parce que moi, il y a quelque chose que je dis souvent en interview. Alors, je ne le dis pas dans les 5 premières minutes, mais généralement, après passer 2 heures avec une personne, je lui dis « mais qu'est-ce que t'es beau ? Vraiment, qu'est-ce que tu es beau ?» Et pas « tu es beau », genre « tu me sauces trop », tu vois. Non. Qu'est-ce que tu es beau ?
L'être.
Ouais. L'être est beau. Et puis, après, sur le détail esthétique, il y a toujours quelque chose. Des yeux, un sourire, des mains, une stature, peu importe. Et en fait, j'ai remarqué, je l'ai fait vraiment une fois très spontanément. En plus, un monsieur de 70 ans, donc vraiment, on était sur quelque chose de très gratuit. Et il m'a dit « mais on ne me dit jamais ça ». Et je lui dis « bah, tu rigoles quand même ». Et j'ai senti la pertinence à ce moment-là de cette gratuité. Et du coup, le dimanche d'après, j'ai dû enregistrer genre en fin de semaine. Et le dimanche d'après, j'ai créé une story sur Instagram qui a un rendez-vous depuis, qui s'appelle la story des hot dudes, donc des mecs un peu beaux gosses, chauds. Enfin, après, j'ai trouvé un truc. Voilà. Et en fait, je vais chercher des photos sur Instagram de tous les corps possibles et imaginables d'hommes pour montrer que le potentiel érotique des hommes est incroyable. Parce que nous, jeunes filles, jeunes femmes, on nous apprend assez vite, alors si on a une maman qui est plutôt dedans ou une figure maternelle, que sais-je, à mettre un décolleté si tu as une jolie poitrine ou pas, à savoir t'habiller, agencer tes cheveux, te maquiller, les couleurs qui te vont pas, etc. Enfin, on sait, nous, quand on sort ou pas, enfin, chacune fait ce qu'elle veut avec sa séduction, mais on sait comment être bonasse. On le sait, on connaît nos points faibles, nos points forts. Un garçon, pas tant, en fait. On ne l'apprend pas, on ne lui apprend pas vraiment à se valoriser. Il va s'habiller de façon assez fonctionnelle, un peu à la mode, si voilà, ça l'intéresse, mais on ne va pas tellement valoriser un garçon. Et moi, ce qui me rend folle, c'est quand je vois des bodys pour nouveau-nés, genre belle comme maman, fort comme papa, mais j'ai envie de brûler ça. J'ai envie de brûler ça. Parce que ça veut dire quoi ? Et en fait, ça dit tout, en fait, de notre façon de genrer les choses. Et donc, on dira toujours à une petite fille « qu'est-ce que t'es belle ? Qu'est-ce que t'es mignonne ?» Donc, après, la jeune fille à 5-6 ans va commencer à minauder, alors qu'en fait, elle devrait juste jouer comme une enfant de 5-6 ans. Mais un petit garçon, on ne lui dit pas « tu es beau ». T'as des yeux, enfin bref. Voilà,
mais tu sais pourquoi ?
Je ne sais pas pourquoi.
Bah, potentiellement, il pourrait devenir homosexuel.
Ah oui, ah bah bien sûr, évidemment. On en parlait tout à l'heure, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi qui adore le rose. Et j'ai le souvenir d'un papa de la crèche où il était, qui me dit « ah ouais, tu l'as bien rose ?» Et je lui dis « bah ouais ». Enfin, voilà, vraiment le « et », quel est ce propos en fait ? Et en fait, ouais, bon, après, il était cool et tout, mais je lui dis « écoute, enfin... » Cette couleur ne va pas définir sa sexualité. Enfin, vraiment, on n'en est pas là quand même. Enfin,
on n'est plus là, non ?
Non, mais voilà. Et enfin, je vais rappeler que c'est toute une question de mode et de tendance. Je veux dire, ça a été, enfin, la couleur des rois, le rose, il y a des centaines d'années. Enfin, on se détend quoi là-dessus. Et donc voilà. Donc vraiment avoir créé cette story de corps différents. Et là, vraiment, je mets des mecs très musclés, genre qui sont vraiment des mannequins,
bodybuildés,
etc. Mais je mets c'est difficile à trouver. Et je vous cache pas qu'Instagram me rend pas la vie facile parce que j'ai des menaces toutes les semaines d'éradication de mon compte. J'essaie de mettre des hommes gros, j'essaie de mettre des hommes ethniquement différents, j'essaie de mettre des hommes handicapés. C'est très dur enfin porteurs de handicap en tout cas, c'est très dur de trouver toute cette diversité de corps, mais j'y arrive quand même. Et pareil, c'est trop cool parce que je reçois généralement le dimanche des gens qui me disent « ah oh, merci, machin, etc. » ou qui commentent « ah ouais, c'est trop mon type de mec, ah ouais, machin. » Et je commence à avoir des auditeurs qui m'envoient leurs photos. Donc, et toujours hyper respectueusement, il n'y a pas de nude, machin, c'est des photos artistiques plutôt réussies, et ça fait plaisir. Et j'ai eu pas mal d'hommes qui me disaient ça fait du bien en fait de voir qu'un corps d'homme peut être sexy,
beau,
érotique, et beaucoup de femmes qui me disent je me rends compte, exactement ce que tu disais Carole, que je ne dis jamais à mon conjoint que je le trouve beau, que je le trouve sexy, que j'aime ses pectoraux, ses... moi je suis team veine, hein. Les veines sur ses avant-bras, son dos, sa nuque, enfin voilà.
C'est vrai qu'il y a une invisibilisation du corps.
Du potentiel érotique, quoi.
C'est du, oui, de l'homme qui est en fait, on va toujours dire, comme tu disais, à une jeune femme... Oh bah oui, c'est vrai que c'est joli ton nouveau haut, c'est joli. Et en fait, on va jamais dire forcément un homme parce que bah en fait un homme n'a pas tellement de potentiel de mode et de tendance. Hein, ça va être très t-shirt blanc, jean, mais en fait il y a plein de choses qui sont possibles. Et puis t-shirt blanc, jean, c'est déjà aussi très érotique. Et c'est vrai que ça fait un vrai choc après quand on voit aujourd'hui tous les débats qu'on a aussi sur justement la tenue des jeunes filles à l'école et qu'on se dit mais en fait c'est fou parce que on est encore dans soit de l'érotisation, soit pas d'érotisation. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait ? Est-ce qu'on peut reposer les bases et se dire on peut s'habiller comme on veut, on peut tous être beau et sexy et c'est...
On peut tous se faire des compliments.
Ah carrément, c'est gratuit surtout.
Gratuit parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'une femme reproche à son homme ? Il se laisse aller. Mais si tu lui as jamais dit qu'il était beau, comment il va pouvoir à un moment donné être bien dans son corps ? Et puis, je rappelle toujours un petit truc, être bien dans son corps, c'est avoir une sexualité épanouie.
Mais aussi, bien sûr, bien sûr. Mais c'est le cercle vertueux, en fait. Et c'est vrai que quand c'est exactement ce que tu dis, au bout de 10, 15, 20 ans de mariage, ouais, mon mec, machin, il prend du bide, etc. Mais dis-lui aussi ce que t'aimes chez lui. Et puis tu peux aimer le bide aussi, attention, pas de sujet. Mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de demander aux hommes d'assurer financièrement, d'assurer leur rôle de patriarche, etc. Que du coup, en fait, on en oublie qu'il faut se séduire, qu'il faut s'aimer et s'aimer déjà avec soi-même. Et ce que tu disais sur les fringues, typiquement, j'ai eu le plaisir d'interviewer Benjamin Nevers, qui est le youtubeur, qui était le dernier épisode de la saison 2. Et Benjamin avait fait un shoot photo avec un crop top. Et donc, qui est une fringue qui est de femme, mais qui, à l'origine, est vraiment une fringue qui vient du milieu urbain américain. Les basketteurs portaient tout le temps ça, etc., sur les terrains à Brooklyn, machin, etc. Donc, il y a vraiment un rappel aussi un peu des origines des vêtements qui est assez intéressant. Et il fait ce shoot. Et il en est quand même arrivé à... Bon, déjà, il s'est fait insulter par toute la fachosphère bienveillante qui existe sur Twitter. Mais c'est surtout, il a eu jusqu'à des menaces de mort d'avoir porté un t-shirt qui est au-dessus du nombril. C'est fou, en fait. On en est là, quoi. Enfin, et là, moi, j'ai envie de dire... Alors, évidemment, je suis super choquée, etc. Mais j'ai envie d'aller voir ces gens, ces garçons, et faire avoir une espèce de DeLorean et aller voir ce qui s'est passé dans leur petite enfance. Et j'accuse les parents, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que ces parents ont fait pour que les enfants, aujourd'hui, aient cette haine envers l'autre ? Je me pose vraiment la question. Et donc, du coup, avec...
Ils ont fait ce qu'ils ont pu, tu sais, en tant que parents, on fait ce qu'on peut.
Je sais qu'on fait ce qu'on peut. Non, mais bien sûr, mais à un moment donné, il y a quelque chose.
C'est questionnant, bien sûr.
Il y a quelque chose. Pour en arriver là, à cette haine, et surtout, comme tu disais, à oublier, juste le béaba, de se faire des compliments, d'être dans quelque chose de juste bienveillant. Et puis, au-delà de la bienveillance, juste laisser l'autre exister, quoi.
Ouais.
Et voilà, et je te dis, avoir fait cette série-là de photos que je partage le dimanche, je me rends compte que, pourtant, c'est du partage de repose de photos. Hein. Franchement, je ne vais pas chercher très loin. Quoi, il faut chercher un peu pour chercher certains types de personnes, etc. Parce que alors, des mecs bien foutus, imberbes, avec tous les muscles, même ceux que tu ne connais pas, qui sont là, il y en a pléthore. Mais pour trouver d'autres types de mecs, c'est un peu compliqué.
Et du coup, justement, je me demande, les personnes qui t'écoutent sont essentiellement des hommes ou est-ce qu'il y a aussi des femmes ?
Ben écoute, c'est ça qui est chouette, c'est qu'au début, j'avais plus de femmes, mais là, la tendance commence à être quasiment paritaire.
Ouais. Et quel retour est-ce que tu as eu des retours de femmes, justement, qui ont écouté ? Qu'est-ce qu'elles disent ?
Ben, j'ai des mails fous hein, de femmes qui me disent que ça leur ouvre pas mal de clés chez les hommes, dans leur sexualité, que ça les interpelle, que ça les remet en question, que ça... ouvre, alors ce qui est très mignon, alors ça vraiment c'est ce à quoi j'avais pas pensé, mais il y a des couples qui écoutent le podcast entre eux, ensemble, ou alors chacun de leur côté qui font genre des soirées où ils débattent de ça. Je suis, ça me. Voilà.
C'est fou.
Mais, et que du coup, du coup, ils se posent des questions, et toi, et comment t'as vécu? Et notamment, j'ai des femmes qui me disent, bah, ça m'a permis de demander, voilà, à mon mec, mon conjoint, mon mari, mon fiancé, sa première fois, ses souvenirs, ses fantasmes, etc. Des choses qui s'étaient...
Tu te rends compte, ça met de la communication dans le couple. C'est fou, et c'est ce qu'on a besoin pour avoir une sexualité épanouie.
Et c'est là que c'est génial, en fait, parce que justement, quand on va faire un podcast, on va parler exclusivement des femmes, bah, en fait, c'est à destination des hommes et des femmes.
Bien
et
sûr.
Là, quand on et c'est ça aussi qui est important de remettre dans le débat et dans la communication, c'est que finalement, quand on écoute tes podcasts, moi qui suis femme, ça me donne des clés dans mon rapport aux hommes. Et imaginons qu'il y ait des hommes qui écoutent un podcast sur les femmes, bah, c'est important aussi qu'il y ait ce dialogue, cet échange en tout cas.
Mais je crains malheureusement, enfin, je suis d'accord avec toi sur la théorie, pardon, mais je crains qu'en pratique les hommes soient... C'est pas qu'ils sont moins curieux, mais je pense qu'ils se disent que c'est moins accessible pour eux. Et effectivement, dans d'autres podcasts qui parlent de sexualité féminine, j'ai l'impression que ça tend... l'audience est vraiment très féminine et très genrée. Donc moi, pour le moment, ça commence vraiment à être quasi paritaire. Donc ça, c'est super intéressant.
Super.
C'est assez fascinant. Justement, les retours que j'ai sont autant des hommes que des femmes.
Mais parce que je pense que quand un homme écoute un autre homme parler, parce que comme ils n'osent pas parler, nous on va parler facilement de nos petits problèmes, eux ils n'osent pas, tu ouvres tellement leur vulnérabilité, ou ils s'ouvrent leur vulnérabilité, je ne voudrais pas faire un mauvais... qu'à un moment donné, quand tu écoutes, l'homme qui écoute, il dit « mais moi aussi j'ai le droit d'être vulnérable ». Parce que l'homme aujourd'hui n'a pas le droit d'être vulnérable. Une femme, quand on a... certains postes, on n'a plus le droit d'être vulnérable. Mais là, ça s'ouvre automatiquement.
Oui.
Donc, bien sûr qu'on va les écouter. Et en couple, ils ont raison de les écouter, parce que c'est comme ça qu'ils vont mettre de la communication.
Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'essaie, quand j'écris les notes qui accompagnent le podcast, d'être la plus... de raconter au maximum pour qu'ils puissent lire, tu vois, le résumé sans tout dire, parce que tu ne peux pas résumer facilement. Mais voilà, au moins les thématiques, au moins ce qui va être abordé parce que certains me demandent conseils, tu vois, en DM, me disent « Oui, alors voilà, est-ce que vous avez des podcasts sur la dépendance affective ou sur les problèmes d'érection ?» Je ne les ai pas listés. Et voilà, j'en suis pas à faire, tu vois, des tableurs Excel et
des
tout.
Des Google Sheets.
Exactement. Mais ça commence d'ailleurs sur les témoignages. Mais du coup, voilà, j'essaie d'être... La plus généreuse possible dans l'explication de l'entretien, pour que voilà, et si effectivement il y a des hommes qui ont besoin à un moment donné de se rapprocher d'un discours ou d'un autre, tu vois, ça leur parle. Et je me suis dit que ça serait peut-être le meilleur moyen de les faire écouter cet entretien.
Et qu'est-ce que tu as prévu alors pour cette rentrée?
Alors écoute, déjà on a commencé par un premier épisode qui était super chouette avec Maxence, qui est un garçon qui est polyamoureux et qui a raconté le polyamour avec tellement de candeur, d'ouverture d'esprit, de sincérité, que c'était chouette. J'avais un
genre naturel.
Tellement. Et puis vous l'avez écouté?
Oui.
Ouais. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Et puis quelqu'un de très très intéressant. Et donc j'ai prévu. Alors je suis en train là de terminer ma grille de au moins jusqu'à la fin de l'année là d'enregistrement.
Okay.
Mais il y a des super profils. Alors tout l'exercice, c'est de garder la diversité des âges.
Bien sûr.
Des catégories socio-professionnelles, des ethnies. Enfin, j'essaie vraiment à chaque fois de jongler pour que, tu vois, on ne soit pas dans l'entre-soi parisien.
Bien sûr.
Voilà, du petit gars, 30 ans. J'essaie vraiment d'ouvrir. Donc ça m'amène à quand même devoir jongler un peu. Mais pour le moment, voilà, j'y arrive plus ou moins. Et puis surtout, voilà, j'essaie d'avoir des profils qui parlent à tout le monde et parfois qui sortent un peu du lot pour justement essayer de comprendre des sexualités de niche ou des pratiques un peu différentes.
Pas représentées.
Voilà. Donc, dans cette catégorie-là, c'est un auditeur qui m'a mis en relation avec lui, qui est, je ne peux pas le dire autrement, qui est le roi du fist à l'international, je ne peux pas dire autrement, qui est un performeur apparemment, qui est français mais qui vit au Japon. Et voilà, on échange par mail là, et donc on va enregistrer à distance, puisque du coup le confinement pour moi ça m'a appris à gérer mes enregistrements à distance. Donc j'essaie de ne pas trop en faire, mais du coup dans ce cas-là, Tokyo-Paris c'est quand même plus simple. Et ce mec-là, c'est métaphysique, hein. Déjà nos discussions sont métaphysiques, donc j'imagine que l'entretien va être très très intéressant, mais c'est un performeur qui a un rapport au corps qui est vraiment, on va dire, à part. Mais mis à part ce cas un peu très exceptionnel, ça va être des hommes qui sont de tout horizon, de tout âge. Pareil, ça demande un peu de temps avec les protocoles sanitaires, mais j'ai un invité que je vais aller qui vit en EHPAD, qui a 86 ans et qui est hyper marrant. Enfin, vraiment, je pense que ça va être très très drôle et qui va justement raconter ce que c'est que la sexualité quand on a 85 ans passés. Après, il faut savoir que ces profils-là, mais quels qu'ils soient, c'est énormément de temps à passer à discuter avec. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, je dois il y a la prise de contact, la première. Mais après, il y a parfois... Maxence, ça a été plus d'un an d'échange. Là, ce monsieur dont je vous parle en EHPAD, c'est pareil, c'est hyper long parce qu'il faut choper la confiance, il faut à la fois le mettre à l'aise tout en ne pas perdre de vue l'objet de notre future entrevue. Donc, ça demande beaucoup de temps. Mais j'ai bon espoir et ça va être marrant. J'ai un homme pareil, transsexuel qui est OK de le faire. Il y a eu à un moment donné, une petite hésitation parce que vis-à-vis de sa compagne, de ses enfants, de leurs enfants, etc., il se posait quelques questions. Et puis voilà, on a beaucoup discuté. Et il est OK pour qu'on fasse l'épisode, même si ça ne sera pas sur tout son parcours. Il en parlera un petit peu, mais c'est surtout l'homme qui m'intéresse avant tout. Et puis après, ça va être des gens... qui ont plein de choses à raconter, mais c'est difficile de résumer.
Non, mais là, déjà, tu nous as donné quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Nous as bien teasé.
Le monsieur de 86 ans m'interpelle parce qu'il m'a dit qu'il a fait une formulation rigolote. Il me disait que c'est rock'n'roll en EHPAD.
Il paraît.
J'amènerai Carole avec moi pour faire les consultations.
Non, mais tu sais, t'avais Erwan qui te disait aussi une chose très importante, que en fait, à un moment donné, il faut aller oser bosser sur sa sexualité et aller en parler. Et je trouvais que, après tout ce qu'il avait dit, cet homme, c'était plutôt juste de se dire, mais allons-y, osons, parce que c'est comme ça qu'il va se passer des choses différentes dans votre vie.
Ah oui, complètement.
Parlons sexualité.
Parlons sexualité.
Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci à vous. On a vraiment hâte d'écouter les prochains épisodes. On a eu un vrai teasing là en studio. Merci pour tout ce que tu fais, pour cette bienveillance et pour ces cadeaux que tu fais en podcast. On était vraiment super heureuse de t'accueillir.
Merci à vous en tout cas.
Merci à toi.
À bientôt.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grande Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.